Nous recevons aujourd'hui Bernard Miguero pour une troisième et dernière émission sur l'encyclique du pape François, loué sois-tu.
Bonjour. Effectivement, nous allons parcourir ce matin les deux derniers chapitres de l'encyclique, le chapitre 5, quelques lignes d'orientation et d'action, et le chapitre 6, éducation et spiritualité écologique. Cette troisième émission, je l'ai intitulée « Agir, éduquer, contempler ». Effectivement, après avoir posé le diagnostic, la photographie de la planète, du monde et de la société humaine aujourd'hui, et avoir décrit sans concession les causes de la crise, le pape François examine les chantiers ouverts et les chantiers à ouvrir pour améliorer la situation. C'est concret, mais le pape nous dit aussi qu'il faut convertir les esprits et les cœurs, redonner du sens pour guérir l'homme et la nature. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur ce chapitre 5, les lignes d'orientation et d'action. Effectivement, le pape n'a pas un programme, le pape François ne va pas nous présenter son programme écologique. Il jette un regard simplement sur la manière dont l'humanité, qui a pris conscience depuis maintenant quand même assez longtemps de la dérive que l'on constate en matière environnementale, en matière écologique, il a parlé des dégâts occasionnés à notre sœur la Terre. Donc le pape examine comment cette prise de conscience a déjà donné lieu à des actions, à des interventions, mais il nous dit aussi que tout ce qui a été entrepris est certainement très insuffisant par rapport au chemin qui reste à parcourir. Alors voyons un petit peu le déroulement de ce chapitre 5. Comment s'organise ce chapitre 5 ? On peut dire qu'il y a 5 points dans ce chapitre 5. D'abord, 2 points qui concernent l'action, ce qui est entrepris et entreprendre, agir. Le pape François nous dit la situation est une situation de crise globale, donc il faut obligatoirement une réaction internationale. Obligatoirement, l'action dans le domaine écologique, environnemental, doit être une action concertée au plan international. Mais le pape nous dit aussi attention, il ne faut pas négliger le niveau national et le niveau local. Tout ce qui est entrepris au niveau national et local est fondamental, en complément, même s'il faut des grandes orientations, des grandes décisions qui soient universelles, internationales. Et là, on reconnaît l'appel à une notion de la doctrine sociale de l'Église, qui est la notion de subsidiarité. Permettre à chaque échelon, à chaque niveau, de pouvoir intervenir, de garder sa pleine autonomie d'intervention. Donc vous voyez que dans cette encyclique, on retrouve quand même les grandes lignes, les grandes intuitions de la pensée sociale de l'Église. Donc, agir au plan international, sans négliger tout ce qui peut être fait au niveau national et au niveau local. Et à partir de ça, un défi à relever, nous dit le pape, et ce défi, il est parce qu'on a toujours tendance en matière environnementale, finalement, à garder le secret un petit peu, à agir finalement, à lancer des projets, l'humanité au plan de vue économique, au plan de vue, lance des projets, mais souvent sans dialogue et sans transparence dans les processus de prise de décision, dont le pape nous dit il y a un grand défi, c'est celui du dialogue et de la transparence. Et enfin, il nous dit qu'il y a un autre défi, c'est celui du dialogue entre la politique et l'économie, entre le secteur politique, le monde politique et le monde de l'économie. Un dialogue absolument indispensable si on veut avancer sur le plan des solutions pour résoudre cette crise écologique et environnementale. Et en terminant ce chapitre, le pape a quelques considérations sur les religions dans le dialogue avec les sciences. Il nous dit « Ne négligeons pas quand même ce que peut apporter au débat le dialogue des religions et des sciences. » Voilà. Premier point, l'aspect international de la crise et les solutions à prendre, à trouver au plan international. À crise majeure, solution internationale concertée. Alors je cite une phrase ou deux de l'encyclique. L'interdépendance nous oblige à penser à un monde unique, à un projet commun. L'interdépendance. Aujourd'hui, tout est interdépendant dans notre monde. On ne peut pas faire de l'extractivisme, exploiter des ressources à un endroit du monde sans que ça ait des incidences partout, sur le climat notamment. Pour affronter les problèmes de fond qui ne peuvent pas être résolus par les actions de pays isolés, un consensus mondial devient indispensable. Et le pape donne là des exemples concrets. Il dit par exemple un consensus permettant de programmer une agriculture durable et diversifiée, des formes d'énergie renouvelables et peu polluantes, promouvoir un meilleur rendement énergétique, une gestion plus adéquate des ressources forestières et marines. Là, il met le doigt sur des questions qui sont des questions fondamentales parce qu'on sait à quelle vitesse progresse la déforestation dans le monde, notamment dans la zone équatoriale et tropicale, et on sait ce qu'il en est des réserves marines. Pensons au débat qu'on entend ces jours-ci sur le retour de la pêche électrique et les dégâts qu'elle peut occasionner. Dont le pape nous signale des chantiers qui pourraient être organisés et coordonnés à l'échelon international. Mais par rapport à tout ça, le pape nous dit que la politique et l'entreprise réagissent avec lenteur, loin d'être à la hauteur des défis mondiaux. Vous trouverez ces développements au numéro 164 et 165 de l'encyclique. Le pape souligne au plan international, au plan global, quand même, la prise de conscience et l'effort du mouvement écologique mondial. Et il nous dit que grâce à un fort engagement, les questions environnementales ont été de plus en plus présentes dans l'agenda public. Cependant, les sommets mondiaux de ces dernières années sur l'environnement n'ont pas répondu aux attentes parce que par manque de décisions politiques, ils ne sont pas parvenus à des accords généraux vraiment significatifs et efficaces sur l'environnement. Et le pape va citer certains sommets, il va citer des initiatives au plan international. Et il parle notamment du sommet de la planète Terre à Rio en 1992, qui a véritablement tiré la sonnette d'alarme et qui a amorcé un certain nombre de réactions, notamment sur le plan de la sauvegarde du climat. Parmi les sommets internationaux qui ont entraîné des décisions positives, le pape cite encore la Convention de Bâle sur les déchets dangereux, la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, qui a eu un certain résultat positif. Par contre, il nous dit qu'on est au point mort sur la protection de la diversité biologique et sur la désertification. Et là, on touche véritablement à un drame, puisque, comme on le sait, l'homme a provoqué maintenant la sixième extinction des espèces. On sait que la précédente a eu lieu il y a 65 millions d'années, et c'est elle qui a vu la disparition des dinosaures. Et le pape dit son inquiétude sur les négociations sur le climat. Alors, l'encyclique a été publiée en mai 2015. Nous sommes en 2017. Il y a eu depuis la COP21, la COP22. Est-ce qu'on a véritablement beaucoup progressé dans ce domaine climatique? Et le pape nous dit: les négociations internationales ne peuvent pas avancer de manière significative en raison de la position des pays qui mettent leurs intérêts nationaux au-dessus du bien commun général. Ceux qui souffriront des conséquences que nous tentons de dissimuler rappelleront ce manque de conscience et de responsabilité. Là, il y a un appel à notre responsabilité vis-à-vis des générations futures. Il y a malheureusement un clin d'œil prémonitoire à des pays que l'on voit aujourd'hui sortir de l'accord de Paris et refuser d'entrer dans cette politique d'effort pour résoudre cette grande crise écologique et environnementale. Et le pape en appelle à la justice. L'encyclique n'hésite pas à dénoncer des manœuvres égoïstes des pays riches, comme l'internationalisation des coûts environnementaux ou la stratégie d'achat et de vente de crédits carbone. Et il rappelle que les pays qui ont bénéficié d'un degré élevé d'industrialisation au prix d'une énorme émission de gaz à effet de serre ont une plus grande responsabilité dans l'apport de la solution aux problèmes qu'ils ont causés. Et le pape rappelle par ce biais la nécessité d'une aide aux pays pauvres, qui ne peuvent tout seuls aborder et résoudre les questions qui se posent et qui sont malheureusement souvent les premières victimes des crises. Voilà, et sur ce plan international, le pape reprend enfin l'idée d'une autorité politique mondiale développée déjà par son prédécesseur Benoît XVI. Dans ce domaine du caractère international des problèmes, deux mots sont importants, le mot « dialogue » et le mot « solidarité ». On est loin du compte, ici le pape François fait un constat et lance un appel à réagir. Et il aborde ensuite la question des politiques nationales et locales. Et le pape François nous dit « la place irremplaçable des États pour conduire une politique responsable ». Et finalement, parlant des États, il constate qu'ils ont une double fonction. D'une part, la fonction de limiter, parce qu'il peut y avoir, et il y a malheureusement trop d'initiatives privées qui ne tiennent pas compte des limites, qui ne tiennent pas compte des précautions à prendre, notamment dans le domaine de l'exploitation minière, dans le domaine de lutte contre la pollution. Il nous dit que l'État a un rôle fondamental, qui est un rôle de savoir imposer des limites à l'activité humaine. Je cite, « Face à la possibilité d'une utilisation irresponsable des capacités humaines, planifier, coordonner, veiller et sanctionner sont des fonctions impératives de chaque État. » Et le projet évoque les limites qu'une société saine, mature et souveraine doit imposer. Voilà, mais le pape nous dit qu'il faut aussi inciter et suit un appel aux incitations en faveur de l'environnement. Le cadre politique et institutionnel n'est pas là seulement pour éviter les mauvaises pratiques, mais aussi pour encourager les bonnes pratiques, pour stimuler la créativité qui cherche de nouvelles voies, pour faciliter les initiatives personnelles et collectives. Et restant sur ce plan de la politique nationale et locale, le pape François dénonce l'immédiateté politique et relève que la société civile exerce une fonction de vigilance capable de peser sur la politique. Finalement, le pape appelle à cet équilibre où finalement les citoyens, la société civile, nous tous, devons être vigilants et savoir finalement faire connaître, peser sur les décisions politiques pour qu'elles aillent dans le bon sens. Est-ce que la politique qui se pratique n'est pas quelque part le reflet de nos égoïsmes individuels ? C'est la question qui est posée. Si les citoyens ne contrôlent pas le pouvoir politique, national, régional et communal, un contrôle des dommages sur l'environnement n'est pas possible non plus. C'est au numéro 179. Je vous fais remarquer au passage, finalement, la lucidité et le caractère très concret des constatations du pape dans cette encyclique. Elle nous amène très haut, mais aussi, elle sait partir du terrain, elle sait partir de la vie concrète. Le cadre local permet aussi de prendre en considération les spécificités, car il n'y a pas de recette uniforme. Effectivement, je parlais de la subsidiarité tout à l'heure, il n'y a qu'au plan local, parfois, que l'on peut comprendre quelles mesures doivent être prises. Et c'est particulièrement vrai dans les pays en développement. nous n'avons pas à imposer nos solutions, nous avons à accueillir ce que peuvent imaginer les personnes, les peuples en situation. Et dans cette partie de l'encyclique sur les politiques nationales, régionales et locales, le pape a une remarque très pertinente sur le rôle de l'homme politique. Écoutez ce qu'il nous dit. Qu'un homme politique assume ses responsabilités avec les coûts que cela implique ne répond pas à la logique d'efficacité et d'immédiateté de l'économie ni à celle de la politique actuelle. Mais s'il ose le faire, cela le conduira à reconnaître la dignité que Dieu lui a donnée comme homme et il laissera dans l'histoire un témoignage de généreuse responsabilité. Cela fait du bien d'entendre ce message du pape pour notre temps. Au final, c'est un plaidoyer contre le laisser-faire libéral. Le pape invite à s'appuyer sur un État structuré, des institutions régionales et locales vivantes et reconnues. Et par rapport à cette nécessité d'agir, de penser à l'action dans le domaine écologique et environnemental, le pape va nous parler maintenant de quelques défis. Et il nous dit le premier défi est celui de la transparence. Le pape oppose la transparence à la corruption, c'est l'exact inverse. Et il nous dit, dans ce domaine de la transparence, il y a le principe de l'antériorité indispensable. Lorsqu'on prévoit un projet qui peut avoir des incidences sur notre environnement, l'antériorité est indispensable et des études d'impact doivent être menées. Et dans ces études d'impact, il faut donner une place privilégiée aux habitants locaux à la table des discussions avec une attention particulière aux projets à risque. Donc le pape nous dit, trop souvent, on voit des projets démarrer en catimini et des projets qui se révèlent catastrophiques. Il est important que les instances internationales, les États, mais à tous les niveaux, on impose des études d'impact et une antériorité à ces études d'impact. Ce n'est pas a posteriori qu'il faut constater les dégâts. Le pape nous dit qu'il faut cesser de penser en termes d'intervention sur l'environnement pour élaborer des politiques conçues et discutées par toutes les parties intéressées. Vous trouverez cela au numéro 183 de l'encyclique et donc je vous invite à vous y référer et même à travailler ces textes en groupe si vous le pouvez. L'encyclique souligne aussi que le principe de précaution est précieux car il aide à protéger les plus faibles. Donc, voilà ce que le pape nous dit sur cette nécessité de la transparence. La transparence est donc bien une ligne d'orientation à valoriser dans toute action environnementale. Deuxième défi, et c'est un défi important, c'est celui du dialogue entre politique et économie. Alors, je vais vous citer quelques extraits du numéro 189 qui situe, sans précaution de style, la question. Le pape François pose directement la question « Au détriment de qui a-t-on sauvé les banques ? On refuse d'affronter la question de l'économie réelle au service de l'homme. » La politique ne doit pas se soumettre à l'économie et celle-ci ne doit pas se soumettre au dictat ni au paradigme d'efficacité de la technocratie. Aujourd'hui, en passant au bien commun, nous avons impérieusement besoin que la politique et l'économie en dialogue se mettent résolument au service de la vie, spécialement de la vie humaine. Sauver les banques à tout prix et en faisant payer le prix à la population, sans la ferme décision de revoir et de réformer le système dans son ensemble, réaffirme une emprise absolue des finances qui n'a pas d'avenir et qui pourra seulement générer de nouvelles crises après une longue, coûteuse et apparente guérison. La crise financière de 2007-2008 était une occasion pour le développement d'une nouvelle économie plus attentive aux principes éthiques et pour une nouvelle régulation de l'activité financière spéculative et de la richesse fictive. Voilà des paroles qui sont claires et sans équivoque. en définitive, n'est pas affrontée avec énergie, nous dit le pape François, la question de l'économie réelle qui permet par exemple que la production se diversifie et s'améliore, que les entreprises fonctionnent bien, que les petites et moyennes entreprises se développent et créent des emplois. De fait, les mécanismes de l'économie libérale ou capitaliste ont une tout autre logique que la sauvegarde de l'environnement. Et le pape nous dit, dans le schéma du gain, il n'y a pas de place pour penser au rythme de la nature, à ces périodes de dégradation et de régénération. Voilà, donc le pape nous appelle à retrouver finalement, à refonder quelque part les objectifs de la politique et des objectifs de l'économie, en nous disant il n'y a pas qu'une économie du gain, l'économie doit aussi se mettre au service de l'homme, au service de la nature, et il n'y a que dans ce contexte que l'on va pouvoir résoudre peu à peu les crises qui touchent aujourd'hui l'humanité de ce 21e débutant. Et le pape n'a pas peur d'aborder aussi les objections de ceux qui craignent que l'on s'attaque au progrès. On vit aujourd'hui sous le signe un petit peu de la religion du progrès. On a parlé de la religion du progrès. Et le pape nous dit, au numéro 191, « Quand on pose ces questions, certains réagissent en accusant les autres » de prétendre arrêter irrationnellement le progrès et le développement humain. Mais nous devons nous convaincre que ralentir un rythme déterminé de production et de consommation peut donner lieu à d'autres formes de progrès et de développement. Il s'agit d'ouvrir le chemin à différentes opportunités qui n'impliquent pas d'arrêter la créativité de l'homme et son rêve de progrès, mais d'orienter cette énergie vers des voies nouvelles. C'est un appel qui est fondamental, c'est un appel finalement à la créativité, à ouvrir de nouvelles voies qui ne brideront pas le dynamisme de créativité qui est dans tout homme, qui est dans toute génération, mais qui doivent véritablement éviter que le progrès, finalement, ne repose sur ce que le pape a dénoncé précédemment, le paradigme techno-scientifique et l'anthropocentrisme moderne. Voilà. Et le pape n'hésite pas, c'est au numéro 193 qui a fait couler beaucoup d'encre, à parler du mot « décroissance ». Et il dit « On peut envisager une certaine décroissance dans les pays occidentaux qui sont largement dotés de tout ce qu'il faut pour vivre au profit des pays en développement. Le pape appelle ainsi à une solidarité à l'échelle internationale. Voilà pour ce qu'il en est de ce chapitre 5. Et en terminant ce chapitre, le pape François examine les aspects du dialogue des religions et des sciences. Et il nous dit, premier constat, la science n'explique pas toute la réalité. Et deuxième constat, les textes religieux font toujours sens. Pourquoi les reléguer ? Dans cette nécessité d'agir, finalement, le pape dit, pourquoi ne pas faire appel aux ressources que nous donnent les grandes religions ? En réalité, il est naïf de penser que les principes éthiques puissent se présenter de manière purement abstraite, détachée de tout contexte, et le fait qu'ils apparaissent dans un langage religieux ne les prive pas de toute valeur dans le débat public. Les principes éthiques que la raison est capable de percevoir peuvent réapparaître toujours de manière différente et être exprimés dans des langages divers, y compris religieux. Et le pape nous dit que toute solution technique a des limites. Et il y a ce bel appel, la majorité des habitants de la planète se déclarent croyantes, et cela devrait inciter les religions à entrer dans un dialogue en vue de la sauvegarde de la nature, de la défense des pauvres, de la construction de réseaux de respect et de fraternité. Et à partir de là, dans le chapitre 6 que nous abordons, le pape aborde la question de l'éducation et de la spiritualité écologique. En terminant cette encyclique dans le chapitre 6, le pape va nous dire tout simplement, finalement, la question de fond, c'est de changer l'homme. La question de fond et la solution, elle commence à l'intérieur de chaque homme et elle commence par une conversion que nous devons opérer. Cette conversion nous permettra de rayonner nos valeurs, nous permettra d'éduquer les nouvelles générations à cette nécessité de prendre en compte la création et la nature, et elle nous permettra finalement d'adopter un style de vie simple et sobre. Il y a de belles pages sur la sobriété qui permettra à l'humanité d'aujourd'hui de se réconcilier avec elle-même et avec la nature. Et je ne peux que vous inviter à lire et à méditer ce chapitre 6 qui se termine aussi en soulignant les belles ressources que nous donne le christianisme justement par rapport à cet accueil de la création et à cet accueil de nos frères. Je lis un tout petit paragraphe sur l'Eucharistie qui me paraît tout à fait original. Dans l'Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce qui tend à se manifester d'une manière sensible atteint une expression extraordinaire quand Dieu fait homme, se fait nourriture pour sa créature. Et le pape termine l'encyclique par de très belles prières. Et il dit au Seigneur, « Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. » Merci de votre attention et je vous invite encore à entrer seul, mais surtout en groupe, dans la lecture et la méditation de cette belle encyclique Laudato Si'.